Salut Bill, bonjour tout le monde.
Bonjour Arthur.
Aujourd'hui, nouvel épisode autour de ton livre « Les génies des mers ». Et pour cet épisode, je voudrais que l'on aborde ensemble le thème de la taille des poissons et des cétacés au fond des océans. Alors Bill, il y a un passage que j'ai particulièrement aimé dans ton livre, c'est celui qui évoque le mola mola. C'est un poisson assez mystérieux parce qu'à la naissance, la larve fait environ 5 mm et parvenu à sa forme adulte, il pèse près de 2 tonnes. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ?
Le mola mola, c'est un poisson fabuleux, la plus grande croissance du règne animal en fait. C'est le plus grand poisson osseux du monde, il peut faire jusqu'à 2 tonnes. Donc c'est vraiment énorme, énorme. Et la larve qui est toute petite, ce qui est amusant aussi, c'est qu'elle a la forme d'un soleil, alors que l'adulte a la forme plutôt d'une lune, on va dire poisson lune, parce qu'il est tout lisse avec des espèces de petits cratères comme la lune. Le bébé, on dirait un soleil dessiné par un gamin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les triangles pour les rayons, là. C'est tout rond avec des triangles de rayons, c'est jaune, et ça a deux grands yeux et un sourire, quoi. Vraiment, c'est très mignon.
Est-ce que la science arrive à expliquer comment un même organisme peut croître autant au cours d'une seule et même vie ?
Comment ? C'est en mangeant beaucoup, hein. Ça mange d'ailleurs surtout des méduses, donc ça doit en manger énormément, énormément, parce que... Les méduses, c'est pas très nutritif, quoi. C'est surtout de l'eau, donc il doit manger beaucoup. Après, la science comprend pourquoi, surtout, c'est ce type d'organisme-là et pas d'autres qui vont grandir autant. Alors, je disais, par exemple, nous, si on grandissait autant, on deviendrait gigantesque ou alors on naîtrait minuscule. Mais en fait, ça marcherait pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Parce que si on faisait 3 fois la taille de la Tour Eiffel à l'âge adulte, nos os, ils ne supporteraient jamais le poids de notre corps. C'est une question de géométrie, de volume, de longueur et de surface. Si on fait le calcul, on serait beaucoup trop lourd et on se briserait les os. D'ailleurs, les plus grands animaux terrestres, comme les éléphants, s'ils tombent d'un trottoir, ils peuvent déjà se faire mal. Ils ont des os très fragiles par rapport au reste de leur corps, du fait de leur taille. Et c'est pour ça qu'on ne verra jamais un éléphant sauter. Le squelette est trop lourd, les os ne sont pas assez solides. À l'inverse, à l'extrême inverse, pour des tout petits animaux, si nous, animaux terrestres, on était aussi petits, ça marcherait pas non plus avec nos façons de vivre à nous. Parce qu'on est des animaux à sang chaud, par exemple, et si on était tout petit comme ça, on perdrait notre température immédiatement. Les plus petits animaux à sang chaud, c'est des musaraignes, qui vont faire à peu près le poids d'une pièce de 1 centime. Mais si on devient plus petit que ça, la température va pas. Déjà, la musaraigne, du fait de sa petite taille, elle est très embêtée, elle doit manger toutes les demi-heures. Elle a un métabolisme ultra rapide pour maintenir la température. Donc si on était plus petit que ça, il faudrait qu'on devienne à sang froid. Comme les insectes, par exemple, qui arrivent à être petits. Mais on passait d'un animal à sang froid à un animal à sang chaud au cours du développement, enfin ça c'est hyper compliqué. C'est pour ça qu'un animal comme nous, il ne peut pas avoir une croissance comme celle du poisson-lune. Par contre, le poisson-lune, lui, c'est pas un animal à sang chaud, et il vit dans l'eau, donc il n'a pas tous les problèmes de gravité par rapport aux os. Il risque pas de se casser les os, parce qu'il est tout le temps porté par l'eau, donc en fait, il peut être un peu gélatineux, c'est même assez gélatineux, un poisson-lune. C'est d'ailleurs quasiment immangeable à cause de ça, il n'y a qu'une petite partie du ventre que les Japonais arrivent à manger, et donc il n'a pas les mêmes contraintes que nous, comme il est dans l'eau, comme il n'a pas le sang chaud, et du coup, il naît, il est tout petit, et puis il peut devenir énorme.
De la même manière, tu as cette expérience de pensée dans ton livre qui est assez chouette. Tu dis que si on voulait inventer le plus gros animal du monde, ça ne pourrait être qu'une baleine. Et je rebondis donc ce que tu disais par rapport à la musaraigne et aux éléphants, qui sont les plus gros animaux terrestres. La baleine bleue, tu expliques dans ton livre que si on prenait énormément de pâte à modeler et qu'on essayait d'inventer un animal qui soit le plus gros possible, eh ben on finirait quand même par être limité par des considérations biologiques et physiologiques.
Oui, par des considérations biologiques et physiologiques qui sont en fait dues à une troisième science, la physique. Donc c'est ce qu'on disait, par exemple, sur Terre, on ne peut pas faire beaucoup plus grand qu'une girafe ou un éléphant parce que l'os va casser. Donc pour faire plus grand, il faut être dans l'eau. Et puis alors, une fois qu'on est dans l'eau, si on veut faire quand même très grand, il faut que notre animal, il ait de quoi bouffer. Donc, pour avoir de quoi manger, il a besoin d'avoir accès à des sources de protéines, de nourriture très abondantes. Et pour ça, il faut des grandes biomasses qui découlent d'une grande énergie qu'on met dans l'écosystème. Et ça n'existe qu'au niveau des pôles. En fait, il fait jour 6 mois par an. Du coup, il y a beaucoup de lumière du soleil, donc beaucoup de photosynthèse. Et à partir de là, ça fait beaucoup de petites algues qui vont nourrir beaucoup d'animaux comme les crevettes du krill. Et ça, c'est ce qui va permettre de nourrir les baleines. Donc les baleines, pour avoir assez à manger, elles sont obligées d'aller au pôle, sauf celles de Méditerranée qui ont du krill à domicile, qui est coincée là depuis l'ère glaciaire, à l'époque où c'était polaire. Mais c'est une autre histoire. Mais donc les baleines ont besoin d'aller dans les eaux du pôle. Et alors, pour pouvoir aller dans les eaux du pôle et maintenir une activité de chasse dans ces eaux-là, ben, elles ont besoin d'avoir le sang chaud. Donc comme on disait tout à l'heure, le sang chaud c'est un problème quand on est tout petit comme la musaraigne, parce qu'à ce moment-là, on perd de l'énergie tout le temps, on perd de la chaleur. Mais quand on est trop gros, on a l'extrême inverse, c'est-à-dire que la surface de la peau qui permet d'évacuer la chaleur, comparativement à tout le volume de l'animal, elle n'est pas si importante quand on est très gros. Et du coup, la baleine, elle va surchauffer en permanence.
Ce qui fait qu'on pourrait imaginer que si la baleine dépassait une certaine taille, elle se mettrait à cuire de l'intérieur, en fait.
Absolument, c'est exactement ça. Si la baleine dépassait une certaine taille, du fait de ce rapport entre la surface et le volume qui fait que plus on est gros, plus on surchauffe, eh bien, elle surchaufferait tellement qu'elle cuirait, elle pourrait plus vivre. Et d'ailleurs, on le voit, quand on tue une baleine, les Amérindiens qui en chassent en Alaska, hein, ça cuit tout seul. Parce que pour se maintenir en vie, la baleine, elle est obligée de pomper en permanence du sang vers sa peau pour se refroidir. Et on le voit, quand les baleines commencent à être très actives et à chasser, le ventre devient rose. Parce qu'il y a beaucoup de sang qui affleure vers la surface pour essayer de refroidir l'animal.
Et c'est ça, ce fameux dessin qu'on voit dans ton livre. Je me permets de rendre encore hommage à la dessinatrice qui est absolument merveilleuse dans cet ouvrage. C'est ce fameux dessin du petit rorqual, donc la baleine de mink, qui se retrouve avec une partie ventrale complètement rouge. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est un mécanisme qui est assez fascinant quand même, de dévier l'écoulement du sang pour le faire se rapprocher de la partie la plus proche de l'eau.
Oui, effectivement, il y a ce dessin de Valentine Plessis. On voit la baleine qui sort la tête de l'eau et le ventre qui est rose. En fait, il est tiré de beaucoup de photos qui ont été faites et d'observations. Hein, la baleine de mink, comme ça, quand elle chasse, mais les autres aussi. Hein. C'est plus marqué chez la baleine de mink, plus observable. On voit le ventre qui est rose comme ça. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des vaisseaux sanguins qui passent très près de la peau, que la baleine, elle va court-circuiter quand elle n'en a pas besoin, quand elle ne surchauffe pas spécialement. Mettons, si elle descend dans des grandes profondeurs où il fait froid, qu'elle n'est pas très active, etc., elle les coupe et le sang passe pas par là. Mais quand elle va surchauffer, elle va pouvoir les ouvrir et comme ça, ça va permettre au sang de passer très très près de la peau pour se refroidir. Et c'est comme ça que la baleine essaye de se refroidir un maximum pour éviter la surchauffe.
Voilà ce que l'on pouvait dire sur les différents gabarits des différents êtres qui peuplent les mers. Merci beaucoup Bill pour tes lumières, merci à toutes et à tous de votre écoute, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures autour du vivant.
À bientôt.
L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production. Rigolade!